Soyez bénis en ce jour encore, mes bien-aimés. Demeurez dans la paix du Christ. Je vous salue au nom de Jésus. Et l'Esprit m'a mis à cœur aujourd'hui vraiment de partager avec vous sur un sujet d'actualité presque dans le corps du Christ. Nous nous rendons compte de plus en plus de cette vague d'église qui s'adonne à des actions vraiment, je dirais, indignes, qui, sous le message des délivrances quelconques, vraiment conduisent le peuple dans des choses, moi je dirais franchement inacceptables. On remarque tous ces derniers temps la prolifération dans les églises, c'est des ventes des articles, des fioles, de l'eau, du sang, de l'huile, des mouchoirs, des vêtements, des objets de toutes sortes, remplis d'onction et autres qui sont censés avoir le pouvoir pour quiconque achète ces babioles d'apporter toutes sortes de bénédictions, de grâces, de guérisons, de miracles. Et c'est vraiment de plus en plus vulgarisé aujourd'hui que, et avec la voix de l'Internet encore beaucoup plus. Et j'étais tellement triste dans mon cœur, vraiment, je priais et m'interrogeais auprès du Saint-Esprit de cette pratique. Et j'ai reçu vraiment de partager cela avec vous aujourd'hui, ça va un peu être l'objet de ce message. Je voulais attirer l'attention, je voulais dire vraiment aux enfants de Dieu, retenez que Dieu et son Esprit Saint n'ont pas besoin d'être aidés par quelques fioritures, babioles, fétiches, que ce soit pour agir dans nos vies. Ils n'ont vraiment pas besoin de ça. Jésus-Christ encore moins. Dieu prend la peine de nous dire depuis l'ancienne alliance. Il le disait déjà à Zorobabel, quand il encourageait Zorobabel dans sa parole d'aller œuvrer en son nom, il lui disait, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Nous le lisons dans Zacharie 4, pardon. Zacharie 4, verset 6, nous lisons cela. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il s'adressait à Zacharie, à Zorobabel, à qui, et par la bouche de Zacharie, à qui il avait confié une immense mission de reconstruire le second temple. Zorobabel et les autres étaient un peu frustrés, ils revenaient de la déportation, ils étaient un peu frustrés parce que ils étaient dans une région où les gens s'étaient encore levés pour les empêcher de construire. Alors timorés, ils sont allés s'enfermer. Et quand le prophète Agée leur a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il faut construire le temple de l'Éternel. Ils ont cherché la face de Dieu et c'est le prophète Zacharie qui leur disait, Dieu vous dit, ce n'est ni par votre puissance, ce n'est ni par la force. Mais c'est par son esprit que toutes choses sont faites. Et c'est vrai, vraiment, les enfants de Dieu, j'ai envie que nous nous mettons ça dans la tête. C'est le Saint-Esprit et Dieu lui-même qui font toute opération. Nous, nous ne sommes que des canaux. Nous, par notre foi, nous ne pouvons être utilisés que pour parler au peuple de Dieu. Que ce soit dans l'Ancienne Alliance, que ce soit dans la Nouvelle Alliance, les principes de Dieu ne changent pas, mais ils se sont renforcés et se sont accomplis en Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance. Quand nous lisons un verset comme Psaume 107 quand nous lisons le Psaume 107 à son verset 20, nous lisons ceci. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. La délivrance se faisait par la parole. Que nous le lisions dans Matthieu, comme dans les évangiles, dans Matthieu 8, 16 par exemple, nous lisons ceci. Le soir, On amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades par sa parole. Quelle que soit la cause de votre oppression, mes frères et mes sœurs, quelle que soit la nature que doit prendre notre délivrance, une chose est commune et fondamentale. Dieu agit par la puissance de son esprit à travers la libération de sa parole et la foi que chacun manifeste en entendant et en recevant la parole de Dieu. J'ai envie de le redire ça. Je dis vraiment, il faut que nous gardions en esprit que quelle que soit la cause de notre oppression, quelles que soient les profondeurs des abîmes duquel ils viennent, quelle que soit la nature ou la forme que doit prendre notre délivrance, une chose est commune et fondamentale, c'est que Dieu agit par la puissance de son esprit à travers la libération de sa parole et la foi que chacun de nous manifeste en entendant et en recevant la parole de Dieu. Voilà le cocktail miracle. L'apôtre Jean nous dit quelque chose au commencement de son évangile, quelque chose de puissant. Moi, j'ai l'habitude d'expliquer, de vous dire dans les évangiles que l'apôtre Jean écrit les évangiles après avoir écrit sa vision d'Apocalypse. Il écrit vraiment pendant qu'il est à Patmos, en fait. Quand il a eu cette révélation d'Apocalypse, quand il est exilé à Patmos, et donc c'est là où il rentre dans l'écriture parce que l'Éternel lui demande d'écrire. Donc, le regard de Jean par rapport aux évangiles, c'est un regard éclairé par la vision à venir. Donc, il comprend, après avoir eu la révélation qu'il nous décrit dans le livre de l'Apocalypse, ça lui a permis comme ça de comprendre vraiment ce que Jésus-Christ disait pendant qu'ils marchaient ensemble. Pendant le temps de son ministère terrestre, où Jean a été presque du premier jour au dernier, ça lui a permis de comprendre et de voir les choses différemment. Donc l'évangile de Jean est un évangile éclairé avec vraiment une lumière particulière. Jean nous dit ceci, parce que dans cet évangile, Jean décrit les choses qui se sont passées pendant le ministère terrestre de Jésus, mais il les décrit en nous expliquant vraiment l'aspect spirituel de ça. Contrairement, par exemple, à l'évangile de Matthieu, qui est un évangile qui est descriptif, un évangile qui décrivait l'amour de Christ et ce qu'ils ont vécu pendant ces trois mois. Donc, nous savons que Matthieu aussi était un intellectuel. Matthieu était déjà un percepteur d'impôts. Les Romains ne prenaient pas n'importe qui pour travailler pour leur administration. Il fallait être instruit, il fallait être et parler la langue romaine ou la langue grecque, ou voilà. Donc, Matthieu était un érudit, Matthieu était un instruit, c'était un intellectuel. Donc, Matthieu, vraiment sous le charme de l'amour de Dieu, utilise sa plume parce qu'il sait le faire, ça, pour écrire et décrire et raconter avec fidélité ce qui s'est passé pendant le ministère terrestre de Christ. Mais Jean apporte une dimension qui est une dimension spirituelle et nous amène à nous élever et à comprendre que ce soit la parole de Jésus, que ce soit les enseignements de Jésus, il nous amène à le regarder vraiment à une dimension spirituelle et pas simplement naturelle. Et ça, c'est un évangile qui est vraiment riche. Alors, il nous dit, pour commencer son évangile, il nous campe le décor. Et dans Jean 1 à 14, il nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ah, vraiment, c'est fantastique ça. Dieu nous dit que sa parole et lui, c'est un. Elle, pour parler de la parole, était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, c'est-à-dire par la parole de Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est une affirmation vraiment riche de profondeur. Il continue au verset 4. En elle était la vie. Alléluia. En la parole est la vie. Et la vie était la lumière. Oh my God. La lumière des hommes. Tu veux être éclairé, mon frère? La parole de Dieu. Tu veux recevoir la vie? La parole de Dieu. Tu veux entendre Dieu? La parole de Dieu. Tu veux que les choses soient faites et en toi et avec toi? La parole de Dieu. Au verset 5, il dit, la lumière luit dans les ténèbres. Ah, la parole, la lumière qui était dans la parole, qui était cette vie, lui dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçue. On parle du monde, on parle de l'homme dans son péché, on parle de l'œuvre de Satan sur la terre. Oui, ils n'ont pas reçu. Parce que tant qu'on est dans les ténèbres, on est dans l'esclavage de Satan, on a de la peine à recevoir la lumière de Christ. On se refuse même de recevoir la lumière de Christ. Il poursuit au verset 9, il dit, « Cette lumière était la véritable lumière, amen, qui en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Quand la parole, qui est lumière, qui est décrite ici, est révélée dans le monde, en l'homme et en son esprit, il éclaire l'homme. Et au verset 14, on dit, et la parole s'est faite chair. La parole de Dieu, qui est Dieu, s'est faite chair. De qui on parle? De notre Seigneur Jésus. De notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est Dieu qui s'est fait chair et qui est venu au milieu de nous pour nous parler d'une autre façon et nous apporter toujours. Qu'est-ce qu'il nous a apporté? La parole. Pour nous d'annoncer l'évangile, la parole de Dieu. Dans Psaume 130 au verset 119. Il est dit ceci, quand on découvre tes paroles, ô Seigneur, c'est la lumière. Et les gens, sans détour, ils trouvent le discernement. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas compliqués, qui n'ont pas des vies fourbes comme ça, trouvent le discernement dans la parole de Dieu, dans la révélation de la parole de Dieu. Ça, c'est la version Semeur, la version Lui Seconde dit. Que la révélation de la parole de Dieu éclaire. Même les insensés deviennent intelligents. Ils rendent intelligents même l'insensé. C'est pour vous dire, mes frères, mes sœurs, hommes et femmes même dans le monde, ce que chacun doit vraiment rechercher, c'est de découvrir la véritable parole de Dieu. C'est de désirer et de prier pour avoir de la part du Saint-Esprit la révélation de la parole de Dieu. C'est elle qui se fait chair en chacun de nous. En se faisant chair en chacun de nous, elle apporte la lumière dans tout notre être. Cette lumière parcourt nos entrailles. Cette lumière fait échec à tout ce qui vient des ténèbres en nous, autour de nous. En apportant la guérison partout où il y a la maladie. En apportant la validité là où il y a les infirmités. En apportant la liberté là où il y a toute forme d'oppression et de limitation. En apportant la sagesse et l'intelligence là où il y a l'ignorance, l'aveuglement, l'égarement, le non-sens. Cette lumière, cette révélation de la parole, en venant à nous, apporte la vie partout où il y a la mort. Rien ne reste inchangé par la révélation de la parole de Dieu. Ce qui reçoit la révélation de la parole de Dieu reçoit la lumière et rien ne reste inchangé quand il reçoit la lumière qui vient de la parole de Dieu. Même si c'est seulement une tache de lumière dans les ténèbres ne sont plus parce que toute lumière est vue. Et il en va de même pour nous. Pour notre esprit, pour notre corps, pour notre âme. Tout est dans la quête de la révélation de la parole de Dieu, mes frères et mes sœurs. Ne mettez pas votre espoir et votre foi dans l'achat ou l'acquisition de quelques fioles remplies de divers objets vestimentaires ou autres, soi-disant bénis et remplis d'onction, qui vous est proposé, ça et là, pour votre délivrance ou pour vos bénédictions. Ce ne sont là plus ou moins que d'autres formes de fétichisme, de maraboutisme, d'occultisme, ou pire encore, et des actes qui maintiennent les gens dans l'obscurité, dans le dépouillement, qui les éloignent, qui les égarent, qui les enferment dans les ténèbres encore plus, parce qu'ils ne reçoivent pas la lumière qui vient de la parole de Dieu. Une histoire, vraiment, nous est racontée dans la Bible. Ça se déroule dans le livre des Actes, acte 8. Si vous lisez du verset 1 à 25, je vous invite à lire tout ça. Nous ne pouvons pas, pendant ce message, lire tout le verset, mais de verset 1 à 25. C'est une histoire, en gros, qui nous parle de la rencontre par les disciples de Jésus, Philippe en l'occurrence, et d'autres qui avaient été mis à part, qui avaient été envoyés pour annoncer les paroles de l'Évangile. Ça nous parle d'un certain Simon. De ce Simon, il est dit dans ce passage que c'était un Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. La parole continue en disant, un homme donc, tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Oh, il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Oh, mes frères et mes sœurs, cette histoire, je suis sûre, en parle à plusieurs d'entre vous. Quelle que soit l'église que vous fréquentez, quelles que soient même les dénominations et tout ça, si vous êtes enfant de Dieu et que vous êtes intéressé par l'œuvre de Dieu, par le ministère que notre Seigneur Jésus nous a laissé, si vous êtes un tout petit peu curieux sur Internet ou autre, c'est que vous avez déjà vu des serviteurs de Dieu, des hommes ou des personnes qui se donnent des titres, qui s'affublent comme ça de dimension haute, qui se disent des personnes importantes, qui se donnent même la carrure d'un personnage. C'est ce qui est dit dans la Bible. Ils se donnaient pour un personnage important, exerçaient la magie et provoquaient l'étonnement du peuple, et qui font des choses, et qui disent qu'ils sont immensément bénis. Ils font des miracles à gauche et à droite. Oui, ça nous le savons, nous avons déjà vu. Mais nous continuons l'histoire et l'histoire nous enseigne. Voilà ce qui se passait avant que les véritables serviteurs de Dieu, humbles dans leur être et marchant dans les pas de Jésus-Christ, invitant le Saint-Esprit tous les jours à les conduire, sont arrivés donc dans cette région en Samarie pour annoncer l'Évangile. Mais quand ce Simon-là fut confronté à de véritables disciples de Jésus et serviteurs de Dieu, ceux qui prêchaient et guérissaient et délivraient les gens avec la seule puissance du Saint-Esprit agissant à travers la parole libérée. Parce que c'est ce que les versets de 1 à 25 nous expliquent, que quand les Philippe et tous sont arrivés en Samarie, ils prêchaient l'Évangile, ils annonçaient la bonne nouvelle de Dieu. Et les gens étaient guéris. Et les démons fuyaient. Ils étaient délivrés. Les paralytiques se levaient et marchaient. Les miracles de Dieu abondaient véritablement par la seule parole de l'Évangile qui était libérée. Au point où, même ce Simon a dû constater le peuple avec. Parce que la parole nous dit que le peuple a vu ça et ils ont cru. Même ce Simon-là a regardé comme ça, il a dit non. Voilà la véritable puissance, la vraie grande puissance. Pas les passe-passe, les tours de magie que je fais ici. Non. Il a vu en les apôtres de Dieu. Il a vu en les disciples de Jésus la véritable puissance. Il a vu qu'il y avait quelque chose en eux. Il y avait quelque chose avec eux qui dépassait de loin tout ce qu'ils faisaient. La parole dit que lui aussi, il crut et il marcha avec les autres. J'aime plus quand vous dites que peut-être qu'il était curieux et il marchait seulement derrière les autres en se disant qu'est-ce qu'ils font comme ça. Mais seulement, il a vite fait de démasquer sa vraie nature. C'est comme ça, même dans nos églises, même dans nos prêtres, il y a plein de fausses personnes, des faux semblants qui sont là au milieu des enfants de Dieu dans l'église. Pas véritablement parce que ils ont cru ou convaincu ou qu'ils se sont abandonnés à Christ. Non, c'est sans doute parce qu'ils recherchent quelque chose. C'est sans doute parce qu'ils sont curieux d'avoir quelque chose. Ou qu'ils sont impressionnés par la véritable manifestation de l'Esprit de Dieu. Au verset 18, voilà ce qui se passe. Il est écrit ceci. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains aux apôtres, waouh, sa vraie nature est ressortie. Il leur offrit de l'argent. Il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Oh, au verset 20, mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Verset 21. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Verset 22. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est même possible que cela soit pardonné. Au verset 23. Car tu vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Oh. Au verset 24, ce Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Cette histoire a une finalité. C'est tellement courant de nos jours que les gens pensent que tout se fait par l'argent. Et ceux qui convoitisent l'argent, et ceux qui croient que parce qu'ils ont l'argent, etc. Mais les affaires de Dieu ne sont pas des affaires d'argent. Jésus a dit à ceux qui venaient lui poser la question sur le fait de payer les impôts ou pas, il leur a dit, regardez la pièce de monnaie. C'est l'effigie de qui? On a dit, c'est l'effigie du chef romain. Il a dit alors, si c'est l'effigie de César, donnez à César ce qu'il y a à César. C'est pour dire que les pièces de monnaie, l'argent là, ces billets, ces machins, c'est des choses terrestres. Ça n'a de valeur et d'implication que pour les choses terrestres. Ça n'a aucune valeur ou aucune importance pour les choses de Dieu. Je dis et je pèse mes mots. Ça n'a rien à voir avec l'offrande ou la dîme que vous pouvez payer dans votre lieu de culte, dans votre lieu d'église. Parce que c'est votre contribution à la bonne marche du culte de Dieu, tout simplement. Mais même ça, cela vous est demandé par la parole de Dieu librement. Il dit, donnez avec joie et consentez du fond de votre cœur de contribuer. Parce que pour vous, c'est une bénédiction. Ce n'est pas en contrepartie de quoi que ce soit. Le Seigneur ne te bénit pas parce que tu viens seulement, tu lui donnes des offrandes ou quoi que ce soit. Sinon, Jésus-Christ ne serait pas allé mourir à la croix du calvaire. Puisque nous, les terrestres, nous lui avons donné quoi avant qu'il meure à la croix pour nous? Donc vraiment, cette histoire nous enseigne. Nous voyons que l'apôtre Pierre, l'apôtre de Dieu, a vraiment réprimandé sévèrement ce Simon-là, parce qu'il avait pensé que le don de Dieu s'acquérait ou même se transmettrait à prix d'argent. Et cet acte, ceux qui pensent comme ça, font preuve de quelque chose, la parole nous dit, font preuve du manque de droiture devant Dieu. Penser que l'argent peut être au milieu d'une transaction, d'un trafic d'onction de Dieu, c'est manquer de droiture devant Dieu. C'est être méchant C'est avoir du fiel amer, c'est-à-dire être rempli d'amertume dans le cœur. Et c'est faire montre qu'on est sous l'emprise des liens d'iniquité. C'est très important. Manque de droiture, rempli de méchanceté, rempli de fiel amer, et être victime des liens d'iniquité. C'est pas moi qui le dis. C'est Pierre qui le dit dans acte 1, dans acte 8, pardon, dans cette histoire que nous venons de lire. Mes frères, mes sœurs, ne cherchez jamais à acheter un quelconque produit, à boire ou à manger, ou un quelconque objet pour se revêtir, se couvrir, ou une quelconque substance pour se oindre ou se parfumer, afin d'obtenir la grâce de Dieu, les bénédictions, les dons, les faveurs divines, fût-il même en priant et en prononçant le nom de Jésus. C'est non conforme à la parole de Dieu. Et ce sont des actes qui sont attachés à l'iniquité. Ce sont des actes qui vous rattachent complètement à Satan encore. J'ai souvenir vraiment que dans la Bible, il nous est raconté, lorsque nous lisons le livre de Lévitique, qui est un livre dans lequel Moïse est chargé par l'Éternel pour enseigner ses voies au peuple, pour leur expliquer les règles de vie qu'il avait établies entre son peuple, pour leur expliquer le contexte de l'alliance qu'il voulait signer, pas qu'il avait passé avec eux. Et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Dans ce livre de Lévitique, il est expliqué en ce qui concerne l'huile d'onction. Parce que nous parlons d'onction là. Et il est donné une prescription assez particulière. Lorsque l'Éternel décrit à Moïse comment est-ce que l'huile d'onction qui doit être utilisée pour la sanctification du temple, du tabernacle, est décrit à Moïse, il donne une prescription particulière à la fin, quand il décrit les aromates, etc. Et il dit que cette huile d'onction ne servira que pour le tabernacle. Et que l'encens, ce façonnage de poudre des aromates d'encens, ne devait être utilisé que pour être brûlé pour son adoration. Et il a dit clairement, vous pouvez aller le lire, le Saint-Esprit me l'inspire comme ça de tête. J'ai pas le verset précis à vous donner, sinon je vais mettre le temps un peu à le chercher. Allez le chercher dans le livre de Lévitique concernant l'huile d'onction et l'encens. Et il a dit, a donné une assurance, que personne n'utilise jamais cette huile d'onction. Et c'est ce parfum d'adoration pour son propre compte. Que ça devrait être utilisé exclusivement dans l'œuvre divine et dans le tabernacle de Dieu. Les principes et les règles de Dieu ne changent pas. Même quand l'Éternel dit qu'il va déverser son onction sur toute chair, c'est pas pour qu'on aille faire n'importe quoi avec. C'est pour que ce soit utilisé exclusivement dans le flot de son œuvre et de son action. Il n'y a aucune transaction financière là-dedans qui puisse se justifier de quelque façon que ce soit. Quel que soit ce que l'on veut faire avec l'argent qui sera obtenu, ça ne vient pas de Dieu. C'est non conforme à la parole de Dieu et c'est attaché d'iniquité. Et si vous trouvez en présence de quelqu'un qui vous vend la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, la fin de vos problèmes, le sang et le corps de Jésus, dans des flacons, sur des objets, dans des parfums. Vraiment, fût-il votre frère en Christ, fût-il votre pasteur, fût-il quiconque se disant personnalité ou personnage important. Mon frère, ma sœur, dites arrière de moi, Satan. Dites-le clairement, arrière de moi, Satan. Dites-le comme Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit à Simon-Pierre, dans Matthieu 16, à son verset 23. Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais elles sont celles des hommes. Arrière de moi. Parce qu'il y avait un sujet et Jésus-Christ était en train de leur expliquer qu'il allait subir des souffrances et que les soldats l'arrêteraient et qu'il serait battu et tout ça. Et Pierre lui disait, non, personne ne te touchera. Moi-même, je serai là. C'est quoi ces histoires? Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Même si c'est dans un sentiment de bonté, d'amour, entre guillemets, et de désir de délivrance, de sauver tout le monde, que ce genre d'action vous est proposé, dites arrière de moi, Satan. Parce que les pensées, là, cet acte-là, ne sont pas les pensées de Dieu. Ce sont les pensées des hommes. Et ces pensées des hommes sont un scandale à Dieu notre Père, à Jésus-Christ notre Seigneur, au Saint-Esprit même. Mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, attachez-vous à la recherche de la révélation de la parole de Dieu. Attachez-vous à lire et à méditer la parole de Dieu. Attachez-vous à écouter les messages portés sur l'enseignement de la parole de Dieu. À assister aux réunions de partage biblique dans vos églises. Prenez des notes lors des prédications, enrichissez-vous. Achetez les livres, les articles audiovisuels qui transcrivent des témoignages et des explications, des connaissances spirituelles, afin de vous édifier et que la parole de Dieu se fasse chair en vous. Pour chaque chrétien, chaque croyant, il est fondamental qu'il s'enrichisse, qu'il grandisse dans la connaissance de la parole de Dieu. Lisez, écoutez, visualisez, méditez la parole de Dieu. Car Paul nous dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ta foi ne peut pas mûrir tant que tu n'entends pas la parole de Dieu, tant que la parole de Dieu ne t'est pas révélée. Mais ce n'est pas seulement dans la Nouvelle Alliance. C'est un principe fondamental de Dieu. À Josué déjà, dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait déjà donné la clé du succès et de la réussite en toute chose que quiconque décide d'entreprendre avec Dieu ou d'entreprendre au nom de Dieu. Il a dit ceci en Josué 8, en son verset, en Josué 1, en son verset 8. Il a dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Une entreprise avec Dieu, ça peut être un projet de délivrance. Ça peut être un projet de guérison. Ça peut être un projet de destinée, de bénédiction. Si tu penses que cela vient de la grâce de Dieu, c'est un projet que tu entreprends avec lui. Et il te dit, ma parole est la clé de ton succès. Ma parole est la clé de ton succès et de ta réussite de cette entreprise avec moi. Il n'a pas dit que les écharpes ointes sont le succès de la réussite avec lui. Il n'a pas dit que des flacons d'eau bénite sont le succès de ta réussite avec lui. Non. Quand le Seigneur dit qu'il va te descendre sur nous, son torrent d'eau, son flot et la pluie de bénédiction, il est dans le spirituel. Cette pluie de bénédiction. L'avantage de la recherche du renouvellement de l'intelligence, de notre intelligence, par la révélation de la parole de Dieu, est que quand tu sollicites l'aide du Saint-Esprit, vraiment, par une simple prière, une simple demande, une simple invitation à te conduire. Saint-Esprit de Dieu, me voici, viens et conduis-moi. C'est ce que notre Seigneur Jésus nous a dit. Avant de partir, je ne vous laisserai pas orphelin. Je prierai Père pour qu'il vous envoie son esprit, cet esprit de puissance, cet esprit même qui m'a ressuscité. Le même, il sera à côté de vous, afin que vous ne soyez pas seul, et afin qu'il puisse vous amener à être équipé, à marcher dans la voie qui plaît au Seigneur. Qu'il vous console, qu'il vous guérisse, qu'il vous édifie, qu'il vous éduque, qu'il augmente votre intelligence, vous rende fort, renouvelle vos forces, exerce vos mains au combat, vous apprenez le discernement. Il est là, le Saint-Esprit. Il est à ta disposition, mon frère, ma soeur. N'agis pas sans lui. Demande-lui simplement, Saint-Esprit, je t'accueille en moi, viens, prends le contrôle de tout, je te soumets ma volonté. Prends le contrôle. Prends le contrôle des opérations. Conduis-nous. Conduis-nous dans l'agréabilité de Père. Conduis-nous dans les choses qui lui sont agréables. Glorifions notre Seigneur Jésus, maintenant. Et faisons les choses comme Père le demande. Il suffit de demander comme ça. Pour qu'il mette en toi le discernement qu'il faut. Donc, en dehors même de la Bible, qui est la parole sainte, quel que soit le livre que tu achètes, ou le CD que tu écoutes, ou l'enseignement que tu reçois, si tu as invité le Saint-Esprit à être ton conducteur, le Saint-Esprit lui-même mettra en ton bon sens la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre ce qui vient de lui et ce qui n'est pas de lui, entre ce qu'il faut rejeter et ce qu'il faut garder en soi. Car lui seul, Esprit de Dieu, est capable de faire ça. Lui seul sait faire ça. C'est le maître d'œuvre de tout. C'est l'expert de Dieu. Il suffit de demander. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire, j'achète un livre, je vais lire ou bien je vais écouter tel message. Même si c'est un livre où dedans on a parlé, on a dit des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, si tu as appelé le Saint-Esprit à te conduire, tu te rendras compte à la fin du livre que ce livre n'a rien de bon pour toi. Tu mettras de côté. Mais le fait d'acheter des livres et de lire ont ceci d'intéressant, que ce sont des paroles dites ou écrites qui doivent être révélées. Quand tu entends quelque chose, un message, un discours quelconque, parce que Dieu dit que la parole a une puissance, le pouvoir du son a une puissance. Et le Saint-Esprit est là pour veiller à ces choses autour de nous. Ce n'est pas dans un objet, dans un gris-gris, dans un fétiche quelconque. Quelle différence il peut donc avoir entre un marabout, entre des charlatans du quartier, entre des bonimenteurs qui font ces mêmes choses et vont payer des prix incroyables pour manipuler. Quelle donc différence il y a entre ces, entre guillemets, serviteurs de Dieu qui font ces mêmes choses et qui vendent des objets sous prétexte que ces objets ont la puissance et l'onction. Ça devient des fétiches. Alors, au lieu que les gens soient accrochés à Christ, regardent à l'Éternel et lisent la parole de Dieu pour prier au nom de Jésus, pour proclamer dans leur vie et pour que la parole de Dieu donne la vie et la lumière en eux, ils sont accrochés à une babiole, à un fétiche, à un machin, et ça les écarte du rocher qu'est Jésus-Christ. Ça les amène à la dérive. Et ils se plaignent que rien ne se passe dans leur vie. Sinon, ils sont encore plus mal. Parce que figurez-vous que la parole de Dieu nous dit que même quand on vient, on délivre les gens et qu'après, ils ne sont pas remplis de la parole de Dieu, ces démons reviennent, voient que la maison est nettoyée, mais vide. Ce vide-là, c'est vide de parole de Dieu, vide de connaissance de Dieu, vide du Saint-Esprit. Ils vont chercher cet autre, plus fort. Et quand ils reviennent, ils occupent. Et le sort de cette personne est encore plus et pire que sa condition d'avant. Il n'y a aucun intérêt à aller chercher ce genre de choses. Que celui qui a eu le privilège d'entendre même une fois l'appel de Christ et qui a eu l'opportunité de confesser Jésus, s'attelle à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est son arme. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Je dis bien du monde. De tout le monde. De chaque personne. En se livrant pour être crucifié, il payait ainsi de sa vie et par son sang la rançon de chacun de la créature de Dieu. Nous qui vivons sur cette terre, chaque personne, afin de nous réconcilier avec Dieu notre Père et notre Créateur, et de cesser ainsi d'être esclaves de Satan et du mal. Jésus l'a déjà fait à la croix. Et en ressuscitant au troisième jour, il a accompli cela dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout ce qu'il y avait à faire afin de rendre notre rachat, notre délivrance, notre liberté, notre guérison, notre devenir, notre héritage, notre destinée, de rendre cela possible, de rendre cela disponible pour quiconque croit en lui et en ce qu'il a accompli à la croix. C'est déjà fait, mes frères, mes sœurs. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, notre Saint Sauveur, notre Rédempteur, il l'a déjà fait à la croix. Le pouvoir attaché au nom de Jésus, la puissance qui est inhérente à son sang versé, sont mis gratuitement, je dis bien gratuitement, et quand je dis gratuitement, c'est sans échange pécunier, sans aucune transaction matérialiste d'aucune sorte. Ça a été donc mis à la disposition de quiconque croit en Jésus-Christ. À la disposition de quiconque croit en Jésus-Christ et le reconnaît personnellement comme son sauveur. Et le choisit comme son Seigneur. Être le Seigneur de quelqu'un, cela signifie être ton propriétaire. Parce qu'avant, tu appartenais à Satan. Jésus est venu payer la rançon pour que désormais tu n'appartiennes plus à Satan, mais que tu appartiennes à Dieu, à lui Jésus, lui par qui tu prends cette liberté et cette vie. Lui qui est fils de Dieu et qui fait de nous des fils de Dieu par adoption. Ce pouvoir-là est mis à la disposition de tous, ceux qui croient. Jésus-Christ a complètement triomphé de Satan à la croix du calvaire. Satan le sait. Mais en parfait rusé, rebelle, méchant, menteur, trompeur, il s'agite, il nous oppresse et veut continuer de nous faire croire, de continuer à faire croire à tous ceux qui n'ont pas encore reçu la révélation de leur délivrance, qu'ils sont encore ses esclaves et que leur sort est entre ses mains. Non, mes frères et sœurs, non, mes frères du monde. Votre sort n'est plus dans les mains de Satan. Jésus-Christ, le Sauveur et le Rédempteur du monde, il a pris la main, il lui a repris les clés, repris vos vies en échange de la sienne. Il avait une vie de prix, il a échangé contre votre mort et il vous a donné sa vie en échange. Vous n'êtes plus des esclaves. Mais bien évidemment, si vous l'ignorez, vous allez continuer à vivre comme un esclave. Et Jésus, et Satan, lui, il s'agite. Il va continuer à vous faire croire. Il va continuer là. Mais par le nom et le sang de Jésus-Christ, il est possible de remporter la victoire contre toute forme d'adversité et d'épreuve que Satan, ton ennemi, notre ennemi, et sa horde, celui-là même, qui lui ne vient que pour détruire, tuer, égorger, et qui rôde, cherchant qui dévorer, à tout instant, notre Seigneur Jésus nous a mis en garde. Il est sans cesse en train d'essayer, sans relâche, de nous faire endurer des épreuves. Mais il faut encore que nous soyons conscients, sûrs, assurés, que par le nom de Jésus et par le sang de Jésus, nous sommes en mesure de triompher de tout cela. C'est possible, Christ nous a déjà libéré cela. C'est pour ça qu'il faut être à la veille. C'est pour ça qu'il faut agir pour chasser l'ennemi de tout ce qui te concerne, pour repousser, voire contrecarrer les assauts du diable dans ta vie et dans la vie même des autres personnes. Mais tout cela se fait dans un combat. C'est une bataille, c'est une guerre. Notre Seigneur Jésus est venu instaurer son royaume et il nous a demandé en partenariat de l'aider à remplir ce royaume, de dépeupler le monde pour remplir le royaume de Dieu. Mais de l'autre côté, Satan sait qu'il a perdu, mais il s'agite pour empêcher la créature de Dieu de quitter ce royaume-là. Il utilise toute forme de ruse. Nous devons donc veiller. Et c'est un combat, c'est une bataille, c'est une guerre. Mais toute guerre a son contexte. Toute guerre a ses règles. Toute guerre a ses stratégies, ses armes adéquates, ses munitions adaptées qui vont favoriser la victoire. Et pour toute guerre, il faut des alliés. Et Jésus a dit, je ne vous laisse pas seul. Le Saint-Esprit, c'est un allié de taille. Un allié puissant, fort, costaud, qui connaît les stratégies de victoire. Mais voyez-vous, mes frères et mes sœurs, ce contexte-là, ces règles, ces stratégies, ces armes, ces munitions, elles sont décrites, détaillées et identifiables dans la parole de Dieu. Et nous avons besoin d'aller lire la parole de Dieu, de l'apprendre même. Nous avons besoin de chercher la collaboration du Saint-Esprit pour nous révéler la profondeur de ces Écritures et d'aiguiser notre compréhension afin de pouvoir être apte vraiment à cette bataille. Parce que notre paquet a été libéré par Jésus-Christ, mais Satan vient tourner autour. Il veut le masquer, il veut le voler, il veut le couvrir, il veut le détruire, il veut le gâter. Ah non, non, non. Nous ne devons pas le laisser faire parce qu'il s'agit de notre héritage. Ainsi, vous, nous, tous, nous avons à découvrir les clés qui vont nous permettre de comprendre nos promesses, de saisir nos grâces, nos faveurs, nos bénédictions, nos provisions qui sont déjà libérées et qui sont disponibles dans le plan spirituel. Nous devons saisir les clés nécessaires pour les rendre manifestes dans la vie physique et qui va ainsi nous permettre de jouir de cet héritage-là. Les clés sont dans la parole de Dieu. Et ceci est à la portée de tous ceux qui désirent sincèrement croître spirituellement et se rapprocher de Dieu en esprit et en vérité. Marcher dans les pas de Jésus-Christ. Oui, c'est pour ça que s'atteler à rechercher la connaissance dans la parole de Dieu est fondamental pour chaque enfant de Dieu, pour chaque chrétien, pour chaque personne même. Et chacun doit être un peu à l'œuvre de sa propre délivrance, à l'œuvre de s'accaparer de son héritage. Personne ne détient ça pour vous. N'attendez pas seulement que tous les jours vous êtes des enfants, on prie pour vous, tous les jours on prie pour vous, tous les jours on prie pour vous. C'est pour ça qu'à un moment donné, on vous fait croire n'importe quoi. Grandissez aussi. On peut prier pour vous une fois, on peut prier pour vous deux fois. Mais dès que vous avez un peu de lucidité, recherchez à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Recherchez là où on enseigne la parole de Dieu. Si dans vos églises, on prêche et on exhorte seulement, et qu'il n'y a pas des rendez-vous précis pour enseigner les fondamentaux de la parole de Dieu, cherchez un endroit, même à côté des dimanches où vous allez au culte, dans votre culte, cherchez un endroit où on enseigne la parole de Dieu. Et mettez-vous à la recherche de la connaissance de la parole de Dieu. Même sur Internet, ouvrez les messages, il y a plein de sites, il y a plein de messages. Écoutez les messages. Je vous ai dit, priez seulement. Demandez au Saint-Esprit de vous guider. Soyez vraiment à l'école. Ayez des cahiers, des stylos, prenez des notes. Et priez dessus, méditez dessus. Vous verrez que le Saint-Esprit se fera un plaisir de vous nourrir, de vous éclairer, de vous équiper, de vous rendre intelligent et sage. Mes frères, mes sœurs, vraiment j'avais envie de partager ceci avec vous. Je réponds à mon ministère, à l'ordre que Dieu m'a donné, de partager mon pain avec ceux qui ont faim. Moi, j'ai compris ça, le pain spirituel que Dieu me donne. Quand l'esprit me fait une révélation et me met cela en esprit, me pousse en esprit, j'ai devoir de partager ce que je viens de découvrir avec ceux qui ont faim. Alors que ceux qui ont faim et soif de la parole de Dieu, recevez. Soyez richement bénis par ce message, mes frères, mes sœurs. Tous ceux qui auront à l'écouter, ma prière, et que par la puissance du Saint-Esprit, que la révélation et le mystère dans ce message se fassent chair en vous et que vous grandissez et que vous soyez délivrés des faux prophètes et de leurs œuvres au nom de Jésus. Demeurez en Jésus-Christ notre Seigneur et Maître et soyons toujours plus actifs dans l'œuvre de remplissement du royaume de Dieu, dans l'œuvre de bâtissement du royaume de Dieu qui a été donné à accomplir à notre Seigneur Jésus et pour laquelle il a fait de chacun de nous qui croyons en lui et qui le suivons des partenaires d'œuvre. Nous sommes les partenaires de Christ pour le bâtissement du royaume de Dieu afin que le règne du Père vienne et que sa volonté se fasse sur cette terre comme dans les cieux. C'est pour ça que Jésus-Christ notre Seigneur a donné sa vie pour nous et nous a équipés pour. Ne laissons pas Satan, ses œuvres et ses manigances, au travers de ses dévots, nous détourner de cette mission, nous égarer davantage et nous éloigner de la grâce de Dieu et de ses faveurs. Que la grâce et la paix qui viennent de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur, remplissent vos vies et celles de vos familles, de chaque membre de vos familles, de tous ceux que vous aimez. Demeurez dans la paix du Christ. Shalom.